Chers auditeurs, bonjour, vous êtes à nouveau sur Glissando, c'est mercredi matin, bonjour. Eh bien, vous avez pu écouter, n'est-ce pas, des œuvres liées au cinéma et à la publicité pendant le mois de novembre. Mais voilà, on se trouve en décembre déjà, on approche des fêtes. Et je vous offre ce jour des œuvres composées par des grands pianistes. Voilà, je mets le piano à l'honneur pendant 15 jours. Alors aujourd'hui, ça va être surtout des compositeurs russes et hongrois. Et pour commencer et garder un lien justement avec le cinéma et les autres émissions que nous avons faites et que vous avez écoutées, j'espère, eh bien ce sera avec Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, il est né en Pologne en 1810 d'un père français. Il s'appelait Nicolas Chopin, son papa, et d'une mère polonaise. Je ne vous dirai pas son nom parce que je suis trop mauvaise en polonais. Et il a passé la plus grande partie de sa jeunesse à Varsovie, une très belle ville. C'est un enfant précoce. Il a pris des cours de piano dès l'âge de 6 ans et déjà à 8 ans, il donnait son premier concert. Mais contrairement au père de Mozart, Nicolas Chopin, donc le papa, ne tire aucun revenu des représentations de son fils en public. Et au contraire, il favorise une éducation équilibrée et épanouissante pour le jeune Frédéric. Frédéric est alors un adolescent gay, plein de vie, même moqueur, bien loin de l'image de l'artiste tourmenté et triste que la postérité va retenir en fin de compte plutôt de lui. En 1830, après être allé à Vienne, Chopin arrive dans un Paris en pleine ébullition révolutionnaire. Chopin prend par la suite part à la vie mondaine. Il donne des leçons de piano aux épouses et aux enfants de toute l'aristocratie parisienne et joue dans les salons les plus renommés. C'est à Paris qu'il rencontre la célèbre George Sand, qui sera sa compagne jusqu'en 1847. Durant ses années avec l'écrivaine, il passera ses étés dans son domaine de Nohant et composera vraiment beaucoup. Mais la santé de Chopin est extrêmement fragile, toujours faible, malade. Il donne un dernier concert triomphal à Paris le 16 février 1848, avant de partir à Londres, où son état s'aggrave de manière conséquente. Il est mort à l'âge de 39 ans. Et il est mort d'ailleurs place Vendôme à Paris, et il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris. Voilà, vous pouvez aller voir sa tombe si vous allez un jour visiter ce cimetière du Père Lachaise, qui est d'ailleurs assez intéressant à voir. Alors je vous propose ce matin une andante pianato en sol majeur, c'est un mouvement lent pour piano seul, suivi d'une grande polonaise molto allegro, donc un mouvement beaucoup plus allant. Et là, ce sera accompagné par l'Orchestre National Philharmonique de Varsovie. Alors, le pianiste, c'est Janusz Alechnicak. Voilà, j'espère que je ne prononce pas trop mal son nom. Et en fait, c'est un extrait, donc, c'est une musique qui a été mise dans le film de Roman Polanski, Le pianiste, un film qui avait obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2002 et qui raconte l'extraordinaire destin d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie. Je ne sais si vous avez vu ce film, mais c'est vraiment poignant. Thank you. Eh bien voilà, c'était donc Frédéric Chopin qui nous a régalé avec sa grande polonaise qui était interprétée de manière magistrale. On va donc continuer avec un autre compositeur qui s'appelle Sergueï Rachmaninov. Il a consacré la plus grande partie de sa vie au piano, mais il s'intéressait quand même aussi à l'opéra et à la mélodie. Et il a même pris d'ailleurs plusieurs fois la baguette, donc comme chef, pour diriger ses œuvres ou celles de son mentor, Tchaïkovski. Durant toute sa vie, il va jongler entre sa carrière de pianiste virtuose et son activité de compositeur, et c'est pas facile. Si les grandes tournées de concert ont permis à Rachmaninov, pianiste, on va dire, de gagner sa vie et de nourrir sa famille puisqu'il avait une femme et deux enfants, elles réduisent quand même le temps de création du Rachmaninov compositeur. C'est un personnage sensible, angoissé, souvent très sévère envers lui-même. L'échec de sa première symphonie en 1897 l'ont plongé dans trois longues années de dépression. C'est un certain Nicolas Dahl, qui était neurologue hypnotiseur, qui est parvenu à remettre en fait le jeune homme sur pied et l'a remis en fait devant ses partitions. Entre janvier et avril 1900, Rachmaninov consulte quotidiennement ce mystérieux médecin et achève finalement la composition de son deuxième concerto pour piano. Et là, le succès est au rendez-vous et Rachmaninov est de retour. C'est à l'occasion d'une tournée aux États-Unis que Rachmaninov entreprend l'écriture de son troisième concerto. Il souhaite en faire, on va dire, une carte de visite pour mettre en valeur ses talents de pianiste et de compositeur. Composé dans l'urgence, le concerto est répété sur un clavier muet pendant sa traversée vers l'Atlantique. Alors, imaginez, il est dans un bateau avec un clavier muet. Alors, qu'est-ce qu'un clavier muet? Eh bien, en fin de compte, c'est un piano, sur la table, voilà, vous avez les touches du piano, mais quand vous appuyez sur les touches, ça fait clac, 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 bien sûr, ça ne produit pas de son. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment très sûr de ses doigts, il sait où il est placé, parce que du coup, en travaillant, il n'a pas de son. Donc ce concerto est fait là, pendant sa traversée en allant vers l'Amérique. Et à l'issue de la première représentation en novembre 1909 à New York, les doigts de Rachmaninov sont tellement meurtris qu'il est incapable de jouer un bis. Je vous propose le troisième mouvement du troisième concerto en ré mineur de Rachmaninov. Thank you. Et oui, on a vraiment, nous aussi, envie d'applaudir à ce magnifique troisième mouvement, du troisième concerto pour piano en ré mineur de Serge Rachmaninoff, avec un brillantissime virtuose pianiste qui était Nelson Gurner, qui était accompagné par l'orchestre philharmonique de la BBC. Alors, je vous ai dit que Tchaïkovski était le mentor de Rachmaninoff. Alors, on va aussi écouter du Tchaïkovski. Tchaïkovski, il est né en 1840 dans une famille de la bourgeoisie industrielle parce que son père était ingénieur et sa mère descendait de l'aristocratie française. C'est un enfant d'une extrême sensibilité. Quand il était petit, sa nurse l'appelait l'enfant de verre. Il était destiné à une carrière de juriste, mais il a quand même décidé de devenir musicien et il est rentré au conservatoire de Moscou. Il n'aura de cesse de clamer son patriotisme et il disait toujours à son frère « Je suis russe, russe jusque dans la moelle ». Ça veut tout dire. Il est mort en 1893 du choléra. Il aurait été contaminé par l'ingestion d'un verre d'eau non bouilli. Alors l'autre hypothèse, qui est plus triste, serait celle d'un suicide. Et il aurait été anéanti par une plainte déposée contre lui, parce qu'il avait une liaison jugée scandaleuse à l'époque, il était homosexuel. Voilà, le pauvre. Alors je vous propose de l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, avec Mikhaïl Roudy au piano, le concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Thank you. Voilà, ce mouvement termine un peu comme un point de suspension. C'était ce magnifique, enfin un extrait justement de ce magnifique concerto numéro 1 de Tchaïkovski, qui était interprété donc par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg avec Mikhaïl Roudy au piano. Je voudrais vous parler encore aujourd'hui d'un autre prodige du piano qui était Franz Liszt. Eh bien, c'était un compositeur qui était inspiré par la littérature autant que par la poésie. C'était un personnage romanesque, lunatique, curieux, infatigable. Il semble incarner en fait la figure du musicien romantique à la perfection. C'était le seul enfant d'Adam et Anna Liszt. Il est né en octobre 1811 en Hongrie, dans le petit village de Reding. Son père était violoniste et pianiste amateur, et c'est lui qui lui a donné ses premières leçons de piano et de musique. Mais il remarque très tôt l'incroyable talent de son fils. Vous voyez à qui je pense ? Voilà, je pense très fort à Mozart. Et oui, justement, ce génie, le père de Liszt ne manque pas de l'encourager et d'en tirer le meilleur profit, s'inspirant ainsi justement du parcours d'un certain petit Mozart. Alors en 1820, la famille Liszt emménage à Vienne pour que l'enfant puisse recevoir l'enseignement des grands maîtres de la musique, comme Karl Czerny ou Antonio Salieri. Un an plus tard, ils iront à Paris. En Autriche comme en France, le petit Franz devient un phénomène. Le gratin parisien vient l'écouter jouer au théâtre italien. Son portrait fait la une des journaux. Ce quotidien d'enfant de star, trimballé de ville en ville pour des séries de concerts à n'en plus finir, ne plaît pas beaucoup au petit Liszt. Alors lorsque son père meurt subitement en 1827, il abandonne sa carrière. Il s'établit à Paris avec sa mère, donne des leçons de piano et se laisse aller à une vie beaucoup plus désordonnée. Mais c'est là, tout de même, qu'il va fréquenter la crème de son siècle, c'est-à-dire Victor Hugo. Il a d'ailleurs été un super admirateur de Victor Hugo. Il est aussi fréquente aussi Alphonse de Lamartine, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Georges Sand. Et côté musique, eh bien, c'est Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Richard Wagner. En 1832, le soir du 8 mars, notre ami Franz assiste pour la toute première fois à un concert du violoniste Niccolo Paganini. Il est émerveillé par ce violoniste, par sa virtuosité sur son instrument, et il ne poursuivra qu'une seule ambition, ce sera repousser les limites de son jeu au piano et devenir, lui aussi, le virtuose du piano. Alors, pour vous prouver que ça l'est devenu, il faut bien le dire, je vous propose cette fois le concerto pour piano numéro 2 en La majeure, donc de Franz Liszt, avec l'orchestre du Festival de Vienne, dirigé par Adolphe Drescher. Alors, je regarde l'heure, je ne suis pas sûre qu'on puisse tout écouter, mais au moins, vous allez profiter d'une musique magnifique. Eh bien, mes chers auditeurs, je profite de ce moment un peu de calme dans ce concerto de Liszt pour vous demander si vous avez apprécié cette matinée passée en compagnie de Chopin, Rachmaninov, Tchaïkovski et maintenant Liszt, là, ça y est, le pianiste est revenu. Et puis, ben, le temps passe très très vite, donc ça va être bientôt la fin de mon émission. J'espère vous retrouver mercredi prochain. À bientôt.